Reducing crime and raising standards are not opposite goals. They are not mutually exclusive. They work together. They all work together.
Donc, c'est le président Trump là, qui commentait son décret qui touche les corps policiers. Raphaël, en quoi ça consiste?
Bien, c'est assez simple, en fait. Premièrement, ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, c'est qu'on allait donner le pouvoir à des groupes indépendants de faire des évaluations du travail des différents corps policiers du pays. Donc, le département de la justice dit à ces groupes indépendants-là, vous faites une évaluation, vous nous donnez cette évaluation-là, les résultats, et les résultats vont dicter le niveau de financement fédéral. Autrement dit, si vous avez un service de police X qui obtient une note de passage, il va recevoir plus d'argent du gouvernement fédéral américain qu'un autre service de police qui obtiendrait une note d'échec venant de ces groupes-là. Donc ça, c'est un gros aspect du décret signé aujourd'hui par le président. Autre aspect qui est, je dirais, concrètement beaucoup moins important, mais qui fait beaucoup réagir, c'est l'utilisation, je devrais dire l'interdiction de l'utilisation de la fameuse prise d'étranglement. Mm-hmm. Je dis que concrètement, ça risque pas de changer grand-chose. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une énorme exemption qui est donnée dans le décret qui consiste à dire que quand le policier juge que la vie d'un policier, donc ça peut être la sienne, ça peut être celle d'un de ses collègues, est en danger, ben l'interdiction ne s'applique plus. Autrement dit, c'est une exemption dans laquelle tu peux faire passer pas mal de choses.
Oui, quelque chose de gros comme un camion du SWAT, là.
Ça ressemble à ça.
Parce que Raph, les policiers, moi, à qui j'ai pu parler dans ma vie, là, quand leur vie est en danger, c'est pas la prise de l'ours qu'ils font.
Non.
Ils sortent leur gun, tu sais.
On s'entend. C'est pour ça que je serais tenté de te dire que le décret d'aujourd'hui, d'abord et avant tout, c'est un exercice de relations publiques.
Oh, arrête!
Non?
Jamais je croirais ça de Donald Trump, voyons.
C'est-tu parce qu'aujourd'hui marque non seulement le surlendemain de son anniversaire de naissance que tu es encore touché par ça, ou c'est parce que ça fait 5 ans, jour pour jour, qu'il est un politicien, puis tu dis que là, ben, après 5 ans, il faut peut-être enfin lui laisser sa chance?
En fait, ce que ça me dit surtout, Raphaël, c'est que, OK, son discours, c'est la loi et l'ordre, l'appui aux policiers, etc. Là, même au chapitre des apparences, il est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a des effets dans le politique. Ça, c'est pas négligeable.
Et ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai non seulement de lui, mais de son parti aussi. Parce que, tu sais, tu présentes Donald Trump comme le candidat et le président de la loi et l'ordre. Mais son parti politique, le Parti républicain aussi, depuis des générations, s'est présenté comme le parti de la loi et l'ordre. Et le Parti républicain au Congrès, lui aussi est en train de s'activer depuis les dernières semaines. Il y a plusieurs législateurs, à la fois à la Chambre et au Sénat, qui disent très clairement que non seulement le ton qu'ils utilisent, donc les mots, la rhétorique, etc., mais aussi le fond, là. La législation, les mesures qu'ils appuyaient depuis très longtemps vont devoir au moins être un petit peu modifiées. Fait que oui, très certainement, c'est plus qu'un mouvement passager, là, ce qu'on voit aux États-Unis, même si le décret d'aujourd'hui ne va pas nécessairement changer de façon drastique les codes de conduite d'un océan à l'autre, ce qui est immanquable, c'est effectivement que la pression politique et la pression sociale, elle est plus importante qu'elle ne l'était il y a à peine quelques temps. Et
Raphaël, il y a toute la question des villes. Les villes ont une autonomie face à leurs services de police bien souvent. Puis à Minneapolis, je ne sais pas si ça va arriver, mais tu as une majorité qui est à l'abri du veto au conseil municipal, là, une majorité de conseillers municipaux qui veulent définancer la police.
Le démanteler carrément. Oui. À Minneapolis, c'est carrément fascinant parce qu'évidemment, c'est la ville où tout cette espèce de drame national-là a commencé avec la mort hier, ça faisait trois semaines de George Floyd. Et là, t'as effectivement ce qu'on appelle une super majorité. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que même si le maire de la ville est contre l'idée, il ne peut pas la bloquer à lui seul parce que t'as une majorité suffisante de conseillers municipaux qui, eux, veulent carrément démanteler. Fait que là, on parle plus simplement de réformer, on parle même plus non seulement de couper le financement du service municipal de police, on dit carrément on le démantèle. Et ce qui est fascinant pour certains, inquiétant ou tout au moins rempli de questions, c'est qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui viendrait ou qu'est-ce qui, en fait, va venir le remplacer. Tu sais, fait qu'il y a le cas de Minneapolis. Il y a le cas aussi de Seattle. Je ne sais pas à quel point tu as suivi ça depuis les dernières semaines. J'ai eu la chance d'en parler à Marie-Claude quand tu as remplacé vendredi à l'émission. Mais tu sais, à Seattle, tu as une autre situation qui est quand même assez dramatique parce que tu as une partie du centre-ville qui est carrément contrôlée par des manifestants depuis maintenant à peu près 2 semaines. Là, aujourd'hui, ils contrôlent à peu près 3 pâtés de maison du centre-ville de Seattle et tu as le conseil municipal. T'sais, on se parle des actions quand même assez musclées prises par des conseils municipaux aux États-Unis. Ben, à Seattle, on a voté et on a voté à l'unanimité. T'sais, on se parlait de grosse majorité à Minneapolis. à Seattle, c'est la totalité du conseil municipal qui a voté pour justement là, bannir l'utilisation de la prise de l'étranglement et bannir aussi l'utilisation des gaz lacrymogènes. Tu sais, c'est quand même pas rien. Fait qu'il y a, des choses qui se passent. Et rappelons-le, tu sais, le mouvement Black Lives Matter, ça date pas d'hier, ça date d'il y a quelques années. Et le constat qui avait été fait par plusieurs après les premiers mois, après les premières années d'existence de ce mouvement-là, c'est que ça n'avait pas donné grand-chose en termes de résultats concrets. Tu étais le premier Pat à le dire, comment pour toi, l'histoire de George Floyd risquait d'être différente. On commence déjà à en avoir des assez bons indicateurs. Là.
Très bien, Raph, t'es libéré. Merci, on se reparle demain.
À demain.
Philippe, petite nouvelle de hockey.
Oui, les Sabres de Buffalo qui ont surpris un peu tout le monde en congédiant leur directeur général Jason Botterill en pleine pandémie s'en vont dans une nouvelle direction. Et selon le Journal de Québec relayé par TVA Sports, pas impossible que les patinoires, les arénas de hockey rouvrent au Québec là, avant longtemps.
On se croise les doigts. Parfait. Pablo Rodriguez est avec nous au retour.